bien, bonjour à tous, c'est Sylvain pour un petit Star Wars en direct express à propos d'un événement qui s'est passé il y a une semaine ou deux sur Paris, une petite conférence, enfin une double conférence de Timothy Zahn qui était là pour la... pour nous expliquer Throne, Marajad, la création de tous ces sublimes bouquins qu'il a fait, qui sont La main de Throne, En univers légende, qui nous a fait aussi la nouvelle trilogie Throne, l'ascendance, dont le dernier numéro est ici, et aussi le fameux, celui qui a fait sa renommée, La croisade noire du Jedi fou. Donc on l'a vu dans le cadre de la Paris Fan Festival, un salon, c'est la deuxième édition parisien, qui a priori selon les organisateurs doit prendre le relais de la Comic-Con version parisienne. Donc on a été aimablement invité, comme tous les autres sites de fans de Star Wars, hein, Planète Star Wars, Star Wars Universe, on avait même nos contrebandiers favoris d'Outrider qui étaient invités. Malheureusement, on les a pas vus. Faut dire que j'avais dit à la sécurité de pas les laisser rentrer parce que hein, y a pas de raison d'être sympa avec les concurrents. On a eu nos collègues aussi, Eris de Geek Squadron qui était là. On a été tous invités par Pocket à la soirée, à une soirée spéciale en pré-ouverture le vendredi soir avec une magnifique conférence organisée par Lucie Gallio qui s'occupe de Pocket. Et ben voilà, on va vous faire un petit détail, un petit débriefing de ces conférences, puisqu'il y a eu 7 conférences privilégiées, et le lendemain, le samedi, donc une autre conférence de Timothy, où on a appris tout plein de choses superbes. Et on était présents aux deux, et surtout à cette conférence, j'ai eu la chance de croiser une célèbre cosplayeuse professionnelle. J'ai nommé Coucou Phobos, ça va ?
Hello, ça va bien et toi ?
Bah ouais, et bah oui les amis, hein, c'est effectivement, hein, je les ai pas laissés rentrer le vendredi, mais on a eu la chance, j'ai eu l'immense privilège de croiser Phobos le samedi. C'était la première fois que tu venais à cette Paris Fan Festival, ou t'avais déjà fait la première édition ?
Non, effectivement, c'était la première fois que je venais. J'avoue que j'avais même pas trop entendu parler de la première édition. Mais en tout cas, j'étais ravie de pouvoir revenir en convention en France. Ça faisait littéralement des années que ça m'était pas arrivé.
Ouais, parce que alors moi, j'avais eu mes accréditations pour la première version. Non, pour la première édition, pardon. Alors, je sais plus si c'était pendant ou avant le Covid, hein, ça fait tellement loin. Hélas, problème d'emploi du temps, j'ai pas pu y aller. Donc là, c'était ma première édition que je le faisais. Effectivement, ça m'a fait, je sais pas toi, mais ça m'a rappelé les bons souvenirs de la Japan ou de la Comic-Con Paris ou même de la Paris Games Week. Qu'on avait soit à Villepinte, soit aussi à Porte des Expos. Ça fait du bien quand même, même si moi et la foule, on n'est pas spécialement amis. Il y avait, je crois, cette édition a rassemblé sur le week-end 24 ou 27 000 personnes. Donc un beau petit salon, surtout si vraiment, a priori, ils veulent devenir le festival geek en vogue. Hein. Donc on leur souhaite que du plaisir. Mais là, on va essentiellement parler des deux conférences de Timothy Zahn. Alors, Phobos était à celle de samedi, et moi j'ai fait les deux. Alors, premier spoiler, les questions étaient les mêmes dans les deux conférences. Hein. On n'a pas eu de nouveautés ou de petites mentions spéciales dans le nom. Non, les questions étaient pas forcément dans le même ordre, mais elles étaient là. Bah tiens, on va vous faire quelques petites photos de la conférence. Alors ça, c'est la photo. La préparation de Lucille pour la conférence du vendredi. Et ça, c'était celle menée le samedi par Antoine, le monsieur qui est tout à droite. C'est Antoine qui travaille pour Écran Large et Sofilm. J'ai oublié son nom de famille, mais il veut absolument venir à QC. Et il viendra à QC, même si je dois l'amener de force là-bas. Les deux conférences, la première était menée par Lucie Gallio de Pocket, et la seconde, donc elle était menée par Antoine, mais traduite par Lucide, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par une traductrice pour faire la traduction. Qu'est-ce que t'en as pensé, Phobos, de cette conférence ?
Écoute, je l'ai trouvé fort sympathique. Si j'ai bien compris, c'est l'une des premières fois que Timothy Zahn était en France pour donner des conférences de ce style. Donc, ça fait très très plaisir d'avoir des personnages de l'univers Star Wars qui viennent rendre visite au monde francophone. J'ai trouvé qu'il était plutôt en forme, qu'il a répondu aux questions en prenant bien le temps de s'arrêter entre chaque phrase pour que Lucille ait le temps de traduire, justement. Après, j'ai trouvé que les questions étaient très classiques. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand-chose. Ça revenait pas mal sur le début de sa carrière et tout, donc j'imagine que c'est des questions auxquelles il a déjà répondu, en fait, dans d'autres interviews, dans d'autres conférences. Donc, ce point-là, c'est vrai que c'était un petit peu plus dommage. Après, il a quand même un petit peu pu répondre à quelques questions sur le futur de Star Wars. Là, c'est un petit peu plus intéressant, un petit peu plus croustillant, sachant qu'on avait eu la Star Wars Célébration la semaine juste avant, où voilà, on avait quelques infos, des confirmations sur le fait que Thrawn serait bien là dans les séries live action, qu'il y avait un film en préparation autour de l'univers Mandalorian Ahsoka, dans lequel on va probablement voir Thrawn aussi. Donc on a pu lui poser quelques questions là-dessus, et là c'était un peu plus intéressant d'avoir ses réponses.
Oui, parce que autant c'est vrai, on a eu le début de sa carrière. Moi, il y a quand tu disais en plus que c'était quelqu'un d'aimable, c'est vrai que j'ai trouvé quelqu'un de très gentil, de très ouvert. Et puis il y a une anecdote qu'il a répétée à la conférence du samedi, qui m'a sur ses débuts, où bien quand il a été sélectionné pour créer ses histoires, il a posé deux conditions à Lucasfilm. La première, c'était que l'antagoniste, donc Thrawn, soit en fait un peu l'antithèse de Vador et le Palpatine, qui eux font régner la terreur et soumettent les gens par la force. Alors Thrawn, lui, gagne la loyauté de ses hommes en étant compétent et intelligent. Et j'ai trouvé que c'était un point très particulier et très sympathique. Et puis surtout, le deuxième point qui m'a bien amusé, c'était la fin de l'histoire d'amour avec Luke et Mara, où Timothy, il a décidé qu'ils finiraient ensemble. Et comme d'habitude, Lucasfilm m'a dit banco pour un premier point, non pour le deuxième. Et dans l'anecdote, c'est là qu'arrive ma partie préférée. Timothy leur a répondu « Eh ben, je le fais pas si c'est comme ça. » Et ça, je trouve que ça dit beaucoup sur la personnalité du bonhomme, qui est bien cadré, qui est droit dans ses bottes, qui dit il y a personne qui va me dire comment mon histoire elle va se passer et se terminer.
Ouais, et en plus, en fait, à la fois, il paraît très humble, honnêtement, quand il parle de ses débuts, quand on lui pose la question, genre, est-ce que vous pensez que vous avez écrit les meilleurs livres Star Wars ? Il répond, en fait, je pense que j'ai écrit les meilleurs livres que je pouvais écrire à moi, mais peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait tout aussi bien, aurait pu faire mieux, etc. Et à la fois, il y a cette humilité, et en même temps, comme tu dis, il a ses convictions, il sait ce qu'il veut raconter, il sait comment il veut raconter.
Il ne laisse pas marcher sur les pieds.
Et il y va, et c'est ça qui est assez intéressant dans sa personnalité, en tout cas.
Et même les questions sur un potentiel fétichisme des mains, coucou Fini Futur, il a répondu que non, mais merci d'avoir demandé. Et Et j'ai vraiment. C'est la première fois que je le voyais. J'ai très peu de dédicaces de gens qui ont créé, que ce soit des acteurs de Star Wars. Mais lui, ça doit être mes dédicaces préférées parce qu'il a été très sympathique, très, très humble, mais comme tu dis, il sait ce qu'il veut. Il a pas. T'as l'impression que c'est pas la personne qui va taper du poing sur la table pour parce qu'il n'y a pas assez de cacahuètes dans le mini-bar, quoi.
Oui, on a cette impression-là en tout cas, et même pendant le Q&A justement, où les gens du coup du public, donc français, lui posaient des questions dans un anglais parfois assez approximatif, assez compliqué à comprendre avec l'accent français, j'ai remarqué qu'il a eu cette élégance de, il n'a pas dit j'ai pas compris la question, il a dit je suis désolée, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Du coup, je suis pas sûre d'avoir compris. Et j'étais là, ah, c'est vraiment genre. C'est très élégant, c'est très poli.
C'est une façon différente de faire la même chose et de dire s'il te plaît, répète parce que j'ai rien capté. Mais même comme tu
Voilà.
disais, le fait qu'il marque des temps quand il parlait, qu'il marque des temps pour laisser le soin à Lucille de traduire et de nous répondre, j'ai trouvé ça très cool. Mais c'est vrai que les questions en eux-mêmes, les références, c'est assez bateau. Bon, je suis pas sûr que dans une conférence pareille, ou même quand tu interviews une grande star, tu peux lui poser réellement toutes les questions que tu as envie de lui poser, surtout celles qui font mal.
Oui, et puis j'imagine qu'il y a certaines parties de son travail dont il ne peut tout simplement pas parler parce que c'est sur NDA, parce qu'il y a peut-être des projets pas encore annoncés, parce que même si là on venait d'annoncer le film qui se passe dans cet univers, dans cette époque-là, on se doute bien que s'il a vraiment travaillé déjà dessus, s'il a déjà fourni des pistes de scénario, en fait il peut tout simplement
Il
pas le
pourra
dire.
pas. Il nous a dit qu'il avait vu Filoni, qu'il avait échangé des idées avec Filoni et Lucasfilm, ainsi qu'avec les différents auteurs qui travaillaient maintenant, mais que non, je peux rien dire, on n'est pas sûr, on sait pas trop, mais si Filoni vient me demander conseil pour Swan, il n'y a pas de souci, il a mon numéro, la porte est ouverte, j'ai attaché le chien dans le jardin, donc personnellement, je ne doute pas que, vu l'anecdote du je vais pas me laisser faire sur la création de mon histoire du début, je pense qu'il a lui-même été toqué à la porte de Filoni. C'est mon personnage, tu fais pas n'importe quoi avec.
J'espère, en tout cas, enfin, je trouve que ça serait dommage qu'on apprenne, je sais pas, dans 10 ans, qu'en fait, il a détesté ce que Filoni a fait avec
Ouais.
son perso. Ce serait vraiment dommage, quoi.
A priori, il a l'air très content de l'acteur qui a été choisi, qui est Lars
Mikkelsen.
Mikkelsen. C'est le frère de.
De Mads Mikkelsen,
Ouais.
c'est son grand frère, je
Ben,
crois.
ouais. Donc, c'est. Il a l'air très content de ça. Il a plein d'idées. Mais c'est vrai. On peut espérer que c'est son bébé, qu'on fasse pas, que Filoni, pour une fois, ne fasse pas n'importe quoi avec Sloane. Bon, je vais lui laisser le bénéfice du doute pour le moment. Sinon, sur les autres questions, c'était essentiellement sur comment il a débuté et le fameux passage qui me fait toujours assez rire l'artiste qui n'a pas beaucoup de boulot, qui est un peu en galère de fric, et puis il vient là le super gros projet qui arrive. Mais l'artiste a le doute, on dirait un vrai scénario de film finalement. Du gars qui j'y vais pas. Je sais pas toi, mais j'ai toujours l'impression qu'en fait, ils se fichent tous un peu de nous en nous racontant toujours cette version du oui, c'est mon éditeur m'a dit de foncer, mais moi j'avais les doutes, j'avais le doute, je savais pas si j'étais capable de faire ça, mais par miracle, j'ai dit oui, j'y suis allé. Ça a eu le succès qu'on a eu. Ça se répète tellement de fois que je ne sais pas si ça n'a pas été scénarisé ou si c'est pas comme tous ces acteurs qui sont gaulés comme des haricots verts et qui 3 mois plus tard sont taillés comme Superman et qui te disent qu'ils ont pris de la masse rien qu'en mangeant des brocolis et des poulets, quoi.
Écoute, pour vivre avec un artiste, mon copain est scénariste, je peux t'assurer que ce genre de situation, je l'ai vraiment vécu,
ouais.
Où on vient l'approcher pour un projet sur une franchise de rêve qu'il adore et qu'il y a ce moment de doute où genre, oh, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'il faut que j'y aille? J'ai peur de découvrir des coulisses qui ne me plaisent pas, etc. Ouais. Et donc, c'est un vrai doute d'artiste. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour
si Timothée Zahn,
mais ça existe pour certains.
Mais en tout cas, je suis vraiment un bonhomme très agréable. Et puis, moi, j'ai eu le privilège de ça. C'est de me faire dédicacer ces deux Black Series. Alors, j'avais demandé, comme je ne savais pas réellement, puisque tout le monde est venu avec ses bouquins, comme je ne savais pas si j'avais eu, allé avoir l'autorisation, j'ai quand même demandé à Lucie Gaillot. Alors déjà ça c'est la Maharaja qui vient de sortir, donc voilà la petite dédicace ici. Pour l'anecdote, a priori, à moins que ce soit encore un très bon acteur, il n'avait jamais vu encore ni la boîte ni la figurine. Donc moi je l'ai pas ouverte encore, puis je l'ouvrirai pas parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais oublié que je l'avais déjà précommandé. Ne jamais me laisser dans un magasin tout seul avec ma carte de crédit, sinon je fais des folies.
Ah, donc tu as 2 Maharaja maintenant, c'est ça?
Je vais avoir 2 Maharaja, donc celle dédicacée que je ne vais jamais ouvrir, hein, ce sera en mode...
C'est un investissement.
Non, en mode les impôts, je dois du pognon à des impôts, faut vendre des trucs sur eBay. Et puis l'autre gros bébé, c'est lui. Alors là non plus, il ne l'avait jamais vu. C'est l'édition collector de la Black Series de Sworn. Un peu là. Alors, ici, c'est de l'autre côté. Hop là, la petite dédicace. Il était super content. Encore une fois, c'est la première fois qu'il était censé vous... Il m'a dit, en tout cas, que c'est la première fois qu'il voyait le boîtier. Et même pour toutes les dédicaces des gens qui étaient là, ça s'est fait presque naturellement, dans la joie, la bonne humeur. Il était très content. J'ai vraiment été impressionné parce qu'il y a des fois, tu as vraiment l'impression que c'est l'abattoir, que ça défile et que les gars sont kikines. Et là, il était debout sur un coin de table à signer les trucs. C'était assez marrant. Et toi, t'as fait des dédicaces, toi, de sa part, le samedi ou pas?
Non, j'ai pas fait de dédicaces. Alors, je dois avouer que la littérature Star Wars, c'est pas là où je m'y connais le plus. Voilà, c'est le moment où j'avoue que je n'ai pas spécialement lu les bouquins de Timothy Zahn. Mais j'ai trouvé le monsieur fort sympathique.
Je les ai achetés, je les ai pas lus non plus, en fait.
Bouh, la fée geek girl. Mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup de monde qui s'est inscrit pour la dédicace. Il y avait une file d'au moins, je pense 50-70 personnes rien pour la dédicace du matin. Donc, en tout cas, le monsieur était très populaire.
Très demandé, ouais. C'est vrai qu'en plus, la file dans ces conventions-là, elle est coupée en plein de petits bouts parce qu'il faut laisser passer les gens dans les allées. Mais il y avait, moi je dirais, une bonne centaine de personnes... Et comme il a l'air très sympa et qu'il prend au moins 1 minute par personne, quand vous avez 50 personnes derrière vous, enfin devant vous plutôt, vous savez que ça va mettre du temps à défiler. Bon, ça c'était la partie finalement Timothy Zahn. Moi j'ai eu un agréable bilan à la fois des conférences et de sa rencontre avec lui. Et sur la Paris Fan Festival, qu'est-ce que toi t'en as pensé? T'as vu que le samedi, c'est ça?
Ouais, j'ai fait toute la journée du samedi, donc de l'ouverture quasiment jusqu'à la fermeture. Très bonne surprise. Déjà, dès l'entrée, dès l'accueil, faut savoir que j'ai une carte de handicap qui normalement me permet de ne pas faire la queue. Et il y avait une personne dédiée qui nous a fait passer au bon endroit, nous a expliqué comment entrer et tout. Donc vraiment un bon point parce que c'est pas donné dans toutes les conventions.
Mais c'est pas très souvent tu te dis bah en fait c'est pas là l'entrée, c'est là-bas, ou attendez, je sais pas, je vais chercher quelqu'un.
Voilà, et où les mecs de la sécu sont pas briefés, veulent pas vous laisser rentrer alors que c'est dans la loi normalement de respecter ce genre de choses. Donc déjà très bon point. Ensuite il y avait un vestiaire pareil, ce qui n'est pas toujours le cas sur les petites conventions, donc ce qui est très appréciable quand on est notamment une cosplayeuse comme moi et qu'on a besoin de laisser une valise avec des morceaux de costume ou de quoi se changer.
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
Donc voilà, je suis la Vanda vraiment au milieu qui a l'air très surprise avec sa petite coiffe.
Oui, mais bon, t'as quand même eu ton instant star.
Oui, enfin, ce qui était très appréciable sur la convention, c'est qu'il y avait tout un corner dédié au cosplay. Donc, il y avait des stands avec des cosplayers plutôt connus qui viennent du monde entier, parce qu'il y avait notamment Mall Cosplay qui vient d'Allemagne, si je ne me trompe pas.
Ah oui.
Il y avait donc un vestiaire cosplay pour se changer également. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y avait un stand photographe qui était tenu par Cyrano's Picture. Donc vous aviez la possibilité de vous faire tirer le portrait voilà, pour quelques dizaines d'euros, donc pour des tarifs vraiment tout à fait abordables. Et donc j'ai pu repartir avec un tirage photo de ma Vanda, donc plutôt classe, plutôt sympa.
Ouais.
Et globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé la convention. J'ai retrouvé un petit peu l'esprit de Geekopolis. Je ne sais pas si tu avais fait cette convention.
Nom me dit quelque chose, mais non, j'ai pas.
Deux, trois éditions entre 2014, 2015, 2016. Et après, la convention, malheureusement, s'est arrêtée pour des raisons financières. Où il y avait un petit peu cet esprit de quartier que j'ai retrouvé là sur le Paris Fan Festival, où en fait, vous avez un quartier plutôt avec les thématiques japonaises, un quartier avec plutôt science-fiction, un truc un peu steampunk, donc un quartier cosplay, un quartier avec l'artiste allé, donc voilà, les différents artistes, dessinateurs, scénaristes qui présentaient leur travail. Donc j'ai beaucoup aimé ce fonctionnement en quartier parce qu'en fait vous êtes vraiment immergé à chaque fois dans l'univers. Vous avez vraiment deux trois allées, vous allez avoir pas mal de décors d'un même univers, pas mal de stands autour de ça, et j'ai vraiment trouvé ça très très cool. J'ai également trouvé les stands de très grande qualité. Honnêtement, il y avait beaucoup de stands d'associations avec des décors, avec des props. Il y avait toute une expo de costumes,
Harry Potter,
de props, Star Wars. Qui était hyper quali, effectivement. Ouais, il y avait du Seigneur des Anneaux, il y avait donc du Harry Potter, il y avait toute une taverne pirate avec des pirates qui traînaient autour.
Ils ont fait un concours de tirage de cordes à un moment. Je suis passé à côté d'eux. C'est, à mon avis, il ne devait pas y avoir que du jus d'orange dans leur boisson.
On sentait à la fin de la journée qu'ils
étaient. Il y avait de la pomme, comme dirait l'autre. Mais il y avait aussi du Indiana Jones. Il y avait une réplique de la pierre du tombeau, là, où à Venise, il gratte tout. Il y avait beaucoup de Star Trek. Il y avait un petit musée de costumes de Star Wars. Il y avait le sempiternel stand de la 501.
Avec aussi un X-Wing grandeur nature.
Il est là.
Effectivement, qui était assez stylé. Et il y avait aussi un stand du musée du cinéma et de la miniature de Lyon qui s'est déplacé avec quelques originaux. Donc on pouvait notamment voir des costumes de Alien, des costumes de de Hellboy. Enfin voilà, il y avait quelques props originaux qui étaient là. Donc c'était hyper cool à voir aussi. Il y avait plusieurs petits stands où vous pouviez acheter des trucs. Donc il y avait un peu le sempiternel stand de goodies de Japanimation, mais il y avait aussi deux trois stands d'artisans assez sympas. On pouvait acheter des prints, des petits badges,
des bijoux voilà. Aussi, je suis tombé le sempiternel stand de vente de katana
il y avait oui, même... mais tu vois, il y en avait genre un ou deux, je crois, max, de ces stands comme ça. Ouais, alors que, par exemple, quand tu vas à Paris Manga, t'as des allées entières où t'as
entières
que ça.
Entières de Ken. Oh, ouais. Bon, j'ai quand même, au détour, c'était avec un pote où le samedi, on se baladait dans les stands. on est tombé quand même sur un stand qui vendait des vidéos hentai. Je savais même pas que ça existait, enfin, que c'était disponible à l'achat, ces trucs-là. Et le pire, c'est que c'était même pas, c'est un truc qui m'a étonné, c'était pas planqué. C'était vraiment bien mis en évidence.
Ah ouais, je l'ai pas vu celui-là.
Entre le mec qui cosplayer pardon qui ressemblait vraiment à Tony Stark qui m'a fait bugger quand je l'ai vu littéralement et ce sondage, je sais pas lequel des deux m'a fait bugger parce que c'est quand même un salon où il y a des enfants quoi, donc t'évites quand même de... C'était vraiment sur le devant des plateaux, devant avec des titres explicites que même un gamin de 10 ans a compris avec un minimum d'anglais. Donc c'est.
Ah ouais, ah non, ça c'est pas cool. Je t'avoue que je n'avais pas trop remarqué ce truc-là, mais
je sais pas si on leur. Je sais pas si on...
Il faut leur dire. Ouais.
Je sais pas si quelqu'un leur a dit, mais moi j'ai vu. En plus, j'ai discuté avec un pote et on discutait les années, puis je me suis arrêté. Attends, qu'est-ce que j'ai vu là? Je me retourne et je fais « Ah ouais, en fait, j'ai bien vu, d'accord. » Bon, là.
Ouais, non, pas
ouf. C'est le seul truc bizarre que j'ai eu, moi, de ce salon. Mmh. Alors, il m'a rappelé les premières heures de la Japan, de la Comic-Con à Villepinte, à côté de chez moi, où c'est un grand hangar avec finalement peu de stands et une population relativement raisonnable, hein, parce que moi, encore une fois, hein, moi et la foule, c'est pas terrible, donc là, il y avait juste ce qu'il faut de monde pour remplir les différents stands, mais on pouvait circuler très bien, les stands de nourriture, on faisait pas la queue non plus pendant 3 jours, ni même aux toilettes, donc ça, c'était... je suis content. C'est juste dommage qu'ils ne viennent pas squatter à Villepinte à côté de chez moi, parce que ça, en voiture, j'en suis en 10 minutes.
Hein. Ouais, mais Port de Versailles, c'est quand même plus facile à y aller en métro.
Ah, ça, c'est vrai. T'as pas le RER B à faire.
Et petite chose à noter qu'on voit assez rarement, c'est qu'il y avait une partie de la convention qui se déroulait dehors. Alors c'était dommage parce que le samedi, il faisait pas hyper beau, mais en fait, ils avaient quelques stands un peu vikings qui étaient dehors.
Le fameux village viking.
Voilà, donc c'était assez original, honnêtement, s'il aurait fait plus beau, je pense qu'on aurait passé un petit peu plus de temps dans cette partie-là, mais il y avait un petit côté, foire normande, je ne sais pas si c'est à l'occasion d'en faire 2-3, genre de reconstitution médiévale et tout, il y a toujours ce genre de stand. Donc
j'en ai fait quand j'étais gamin avec ma mère. Mais voilà. En tout cas, une bonne impression pour cette deuxième édition. J'espère vraiment que ça continuera d'autres éditions, qu'ils arriveront à ramener d'autres personnes comme Timothy Zahn. Parce que je vais être honnête, mais Charisma Carpenter ou Terry Hatcher, j'ai 40 ans, j'en ai plus 15, quoi.
Oui, mais il faut penser à tout le monde. Il y a aussi un public pour ce genre de rencontre. Mais c'est vrai que, après, il ne faut pas oublier que la précédente édition était vraiment très petite, si j'ai bien compris. Donc, je trouve que c'est déjà bien pour une deuxième édition.
27 000 personnes sur
d'avoir des noms comme ça et d'avoir autant de gens qui soient là. Et notamment côté cosplay dans les allées, j'étais assez étonnée de la qualité des costumes qu'on a pu croiser et
une coque de 2,50 m, enfin c'est mon ressenti, hein, la taille de 2,50 m, mais on l'a, je l'ai croisé quand j'étais près de toi et de ton groupe d'amis près du stand de photos, et passé devant.
Ah d'accord.
Elle était toute fine et elle était superbe, mais dans tous les sens du terme. Le costume était très bien. Elle était je vais arrêter là, sinon je vais dire des conneries. Mais tout un tas aussi de Wanda, comme toi, des personnages Marvel, un Superman type Man of Steel qui était génial, et puis le fameux Tony Stark qui avait même en armure d'Iron Man et qui ressemblait physiquement à Robert Downey Jr. Et c'est lui qui m'a vraiment fait bugger. À côté de ça, j'ai croisé un Goldorak en papier mâché. C'était marrant. Mais il y avait beaucoup de très beaux cosplays. C'est bête à dire, mais pour une fois, ça change de certaines conventions où t'as l'impression qu'ils ont sorti les rideaux, en fait.
Oui, bah après, chacun fait avec les moyens du bord, les moyens qu'il a, le temps et les ressources qu'il a. Mais c'est vrai que je pense, comparé à d'autres conventions, il y avait peut-être plus une population vraiment adulte, voire de famille, en fait, des parents avec des tout-petits-enfants. Mais il y avait un peu moins d'adolescents que, par exemple, si tu vas à Paris Manga, je trouve que la foule est quand même très, très adolescente. Et c'est clair que du coup, bah, tu croises pas forcément les mêmes qualités de cosplay ou t'as pas forcément les mêmes ambiances dans les allées ou devant la scène. Il y avait une très grande scène qui proposait des animations plutôt quali, en plus des scènes de conférences d'ailleurs.
Alors c'est vrai qu'au niveau des scènes de conférences, il y avait quand même beaucoup de bruit. Enfin, la scène de conférence principale où on était, il y avait un stand, je ne sais plus, non, je ne crois pas que ce soit Ubisoft, mais ils envoyaient le son à fond. Et c'est vrai qu'encore moi, j'étais assez devant la scène et assez proche des haut-parleurs. Et j'imagine que toi ou ton compagnon qui était plus derrière moi, il y a des fois, ça devait pas être terrible au niveau son.
C'est vrai que c'est le seul truc un petit peu dommage, c'est que la scène de conférence, en tout cas, elle n'est pas du tout fermée, ne serait-ce qu'avec des tissus, ce qu'ils font parfois dans ces grands hangars de convention. Et du coup, ben, quand il y a deux stands à côté qui font un concours de karaoké ou quelque chose de similaire, ben, parfois ouais, ça clash un petit peu au niveau sonore.
On va dire qu'il y a quelques petits ajustements à faire, mais en tout cas, moi, s'ils en font une troisième, j'y vais. J'y vais et pas en... Et pas en rampant.
Non, pareil, je pense que j'y retournerai avec grand plaisir l'année prochaine s'ils continuent. Et je crois qu'ils veulent continuer.
Oui, je pense. Pour moi, l'idée, c'est qu'ils vont devenir la prochaine Comic-Con parisienne. S'ils continuent sur leur lancée, s'ils ramènent plus de monde. Donc,
Honnêtement, j'ai préféré ça à la dernière Comic-Con Paris que j'ai fait.
Je crois que j'y ai pas assisté à celle-là, mais... mais bon, il y a certaines grosses conventions geek parisiennes. C'était moyen le rendu final. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour.
Je pense aussi.
On va faire un bisou à tous nos auditeurs. Et puis moi, je vais faire un gros bisou à Lucille Eris, qui était avec moi le vendredi. On a encore fait les foufous. À cette soirée. En tout cas, merci Phobos d'être venu.
Merci à toi pour l'invitation.
Ouais. Gros bisous. C'était Sylvain et Phobos pour un petit Star Wars Express sur Timothy Zahn. Bisous à tous.
Bye bye.